Amis de la littérature de jeunesse, bonjour Véronique, bonjour.
Bonjour Monsieur Simon.
Et bienvenue à tous sur les ondes de l'autre radio pour une nouvelle émission dans les Quoi nous, l'émission de toutes les littératures de jeunesse.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler de plein de belles choses. On a plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous présenter. Donc on ne va pas faire... Très vite hein, pour maintenant. Enfin, on va aller très vite plutôt pour maintenant.
Elle va être longue cette émission, je pense.
On va y aller tout
oui,
de suite.
Et puis on peut même vous dire bonsoir maintenant, je crois.
Ah oui, on peut même vous dire bonsoir,
c'est
tout
bien
à fait.
Ça. C'est que la période du soir.
Exactement. Et on va commencer comme d'habitude en musique pour cette nouvelle émission qui s'annonce un petit peu longue avec un vrai coup de cœur en disque. Ça s'appelle Lady Do et Monsieur Papa. L'album s'appelle L'amour en plume et le titre s'appelle Du vent dans la tête.
Si je compte jusqu'à 7 sur mon pouce le lundi, tout au bout de mon index le mardi, posé comme une devinette sur mon majeur mercredi, sur l'annulaire doigt en l'air le jeudi. Là, mon petit doigt me dit, on arrive au vendredi, samedi est dans ma manche, le dimanche est dans les choux, le lundi ça recommence, c'est un peu fou. Ça fait du vent dans ma tête, je ne sais plus quel jour on dit, lundi, dimanche ou peut-être vendredi. Ne me dis pas que je suis bête, ne dis pas que je suis petit. Ça fait du vent dans ma tête et c'est ainsi. Si je compte jusqu'à 7 sur mon pouce le lundi, tout au bout de mon index le mardi, posé comme une devinette sur mon majeur mercredi, sur l'annulaire doigt en l'air le jeudi. Là, mon petit doigt me dit, on arrive au vendredi, samedi est dans ma manche, le dimanche est dans les choux, le lundi ça recommence, c'est un peu fou. J'ouvre la fenêtre, le vent chasse mes soucis. Il souffle sur mes sornettes et je grandis.
Et voilà, c'était Lady Do et Monsieur Papa avec le titre du vent dans la tête. C'est beau, hein ?
On s'est envolé, hein ?
Ah, c'est très très beau. J'adore ce morceau et j'adore ce groupe de deux. En fait, c'est Dorothée Daniel et Frédéric Feugas qui écrivent et composent des chansons ensemble, des chansons pour enfants, sous le nom donc de Lady Do et Monsieur Papa. C'est un couple hein, qui est à la vie comme sur scène. Qui
c'est
est...
pas à la vie, à la mort. Non, c'est à la vie comme sur scène.
À la vie comme sur scène.
D'accord.
Et ils ont sorti cet album en début d'année 2019. Un deuxième album qui s'appelle L'amour remplume. Et vous allez voir tout au long de cette émission.
Ça va nous remplumer.
Ah ouais, c'est un album qui est superbe, qui a déjà été salué hein, par l'Académie Charles Cros notamment, qui est une des belles récompenses autour de la musique pour enfants. Donc c'est un album où on retrouve 14 chansons avec des textes tout en rime et en jeu de mots. Vous allez le voir avec les autres extraits qu'on a choisis. En tout cas, c'était un vrai coup de cœur pour ce duo qu'on va redécouvrir au travers de cette émission. Allez, on continue tout de suite avec l'actualité littéraire, littérature jeunesse. L'actualité de la littérature jeunesse. Quel beau slogan.
Ouais.
Eh bien, c'est Montreuil, c'est le salon de Montreuil comme tous les
ans.
Mercredi. Non, c'est Montreuil, là.
Carrément.
C'est Montreuil.
Ils ont commencé.
C'est
ils
Montreuil.
Ont monté le... Ben ah oui. Bah oui. Ah bah oui,
c'est bientôt la fin de Montreuil. En fait, Véronique n'avait pas anticipé que nous pouvions peut-être enregistrer que nous étions avant Montreuil, mais qu'en fait, à la diffusion, nous sommes pendant Montreuil. Et oui. Et là, vous avez un petit peu des secrets de la diffusion.
Ah oui.
Oui, parce que Véronique, vous êtes à Montreuil. Donc vous ne pouvez pas être à ce micro.
Ah ben c'est vrai, complètement.
Donc là vous êtes à ce micro, voilà, mais vous serez bientôt à Montreuil. Voilà. Et donc c'est demain le dernier jour de Montreuil, donc si vous voulez aller voir.
C'est bien dommage que ça finisse.
C'était un très beau salon. Voilà, c'est donc l'actualité. Donc, de la littérature jeunesse. Donc, oui. C'était un gros salon. Hein, je le montrerai.
Oui, voilà. Très, très gros.
Autre actualité, peut-être.
Oui. Il n'y a pas de pépites, il n'y a pas de trucs pépites.
Ben, on ne les, on les connaît pas encore.
Ben non. Non, non.
On les connaîtra la prochaine fois, on vous le dira la prochaine
voilà,
fois.
Voilà, d'accord, on vous le dira. Mais...
Elles seront données en janvier, ça va être magnifique. Bon, hey, vous savez quoi, on va commencer tout de suite par parler de livres, ça ira mieux.
Oui.
Avec les tout-petits. Et avec les tout-petits, j'avais envie de vous parler de deux séries. Alors, généralement, on ne parle pas trop de séries ici, puisqu'on préfère les titres, les œuvres individuelles, mais quand même, là, c'est des séries qui méritent le détour. C'est deux séries... En plus, pour les petits, c'est vrai que c'est souvent... Allez, on va le dire, ça peut être inintéressant, c'est... Hein, c'est
ouais. Enfin, inintéressant pour les parents.
Oui, voilà, c'est machin va au pot, machin va
oui,
au...
Enfin, ça,
c'est,
oui,
je dis machin pour pas, pour pas citer quelqu'un, mais voilà, ouais. Hein, quelqu'un qui ressemble
même
à...
Même d'autres.
Voilà, enfin, ouais. On va rien dire. En tout cas, il y en a des biens.
Oui.
Et ça, c'est important de le dire. Et dans les biens, moi, j'en ai choisi deux. J'ai choisi Timoto. Timoto, c'est un personnage qui a été créé par Rémi Courjon il y a un an et demi, deux ans peut-être maintenant. Ouais.
C'est le combien, là?
Il doit y avoir 8 titres, je crois, qui sont sortis à peu près.
Ils sont tous derrière.
Et vraiment, c'est une série qui mérite le détour. En fait, Timoto, c'est un peu l'anti-Tchoupi, l'anti-petit ours brun. Ah bah, je les ai cités, mince. En gros, là où Tchoupi et petit ours brun sont des personnages un peu insipides, et puis, alors, petit ours brun marqué dans le temps, dans les années 50, on va dire, hein, au niveau de ce qui se passe.
Il a des vieux parents.
Et puis Tchoupi, il est quand même pas sympa. C'est vraiment un personnage qui est pas très sympa.
Après, je connais pas bien, mais...
C'est comme si les enfants étaient pas sympas, hein, parce que lui, il est pas très, très sympa.
Ah oui, il est pas
sympa. Il est individualiste, il est égoïste.
Total,
un petit peu, ouais.
Comme un enfant, quoi.
Ouais. Non,
c'est ça. Non.
Enfin, en tout cas, Timoto, il est un peu fou, il est un peu poète, il est un peu décalé. Alors, par exemple, dans celui que j'ai choisi, là, c'est Timoto, un meilleur copain. Et ce meilleur copain, c'est un petit escargot et il va s'inventer tout un monde avec lui. Alors, la langue, en plus, est très belle, c'est celle des enfants. Elle est parfaitement maîtrisée par Rémi Courjon. En tout cas, c'est vraiment un personnage qui est ultra attachant. Et je sais que c'est un personnage qui a du mal à s'installer. Donc là, c'est un appel au libraire, un appel au bibliothécaire. Lisez Timoto et vous verrez combien c'est bien. Combien il faut le défendre. On a besoin de ces personnages récurrents.
On pourrait lui laisser une petite place dans notre émission à Timoto, le temps qu'il s'installe.
Là, par exemple.
Bah oui,
et puis on pourra en reparler éventuellement. Voilà.
Avoir des nouvelles de
Donc
Timoto,
il faut parler de Timoto.
Oui, parlons de Timoto.
Timoto de Rémi Courjon, publié chez Nathan. Ouais. Et puis on peut parler aussi de Paco. Paco, c'est pour les un tout petit peu plus grands. C'est ce petit chien qui rencontre toutes les musiques
du monde.
Voilà, c'est ça. Il a rencontré.
Et de tous les temps.
Oui, c'est ça. Il a rencontré le jazz, il a rencontré.
La fanfare,
l'orchestre, la musique classique, Mozart, le disco.
Oui, le disco, c'est vrai.
Cette fois-ci, vous savez ce qu'il va rencontrer? Vous savez ce qu'il va rencontrer?
Non.
Eh bien, attendez, regardez. Attendez, hop, attention, j'essaie de faire ça bien.
Ah ouais.
Vous y êtes à New York dans les années 80?
Ah ouais.
Attention, vous êtes prêts? Il y a un concours. Hop.
Comment on appelait ça les...
Scratch.
Le scratch. Non, c'est de la programmation.
Et ouais, ça envoie. Hein. Et ben voilà, Paco, on va le retrouver donc à New York au début du hip-hop. Donc c'est vraiment les origines qui sont montrées. Alors ce qui est super, parce qu'il y a d'autres livres à puces, hein, parce que tout ça c'était des puces, hein, c'était pas moi qui jouais comme ça derrière mes patines.
Ah bon?
Non. Ce qui est bien dans Paco, c'est que les puces déjà sont de très bonne qualité, vous avez pu l'entendre. Et puis ce sont pas des sons qu'on entend tout le temps. C'est-à-dire que quand on parle de hip-hop, bah, c'est pas les grands tubes de hip-hop comme il peut y avoir chez d'autres éditeurs. C'est vraiment une sélection de sons méconnus mais qui sont vraiment la source
historique
de la musique.
Ils ont marqué la musique.
Exactement. Donc vraiment, c'est
ils sont répertoriés à la fin.
Exactement. Vous pouvez retrouver et vous avez les morceaux, tous les morceaux qui sont effectivement dits mais qui sont pas les plus connus, les tubes FM.
Alors juste un truc sur les livres de Paco, c'est merveilleux de raconter l'histoire, parce qu'il y a une petite histoire, Paco qui se balade et qui...
Complètement une histoire, oui.
Et avec ses bruitages, enfin avec ses musiques, hein, mais qui sous forme de bruitages et puis d'accompagnement de l'histoire, ça fonctionne super bien.
Mais oui, parce qu'en fait, les sons ne sont pas là juste pour être des sons, ils sont là vraiment pour accompagner l'histoire écrite et dessinée par Magali Lehuche,
voilà.
Dont on connaît le talent, évidemment, dont on a pas mal parlé ici déjà. En tout cas,
c'est un super livre à raconter.
C'est un personnage qui est super, donc voilà, il fallait parler de Paco. Allez, on passe aux albums et je vous laisse la main pour un. On va commencer par les albums trop beaux parce que hein, c'est décembre, c'est bientôt Noël.
Et ben oui.
On va parler d'albums trop beaux.
Et bientôt la fête des mères. Et là,
vous
aussi,
en avez.
Dit que je parlerai de la
vous
fête
en
des
avez
mères,
un super, mais on s'en fiche de la fête des mères.
Oui,
par contre, c'est un trop beau livre.
Voilà. Une maman, c'est comme une maison. On est chez Les Petites Fourmis Rouges qu'on aime beaucoup, de Aurore Petit. Donc un très beau livre déjà au niveau objet. Hein. Et c'est une litanie sur l'utilisation de la maman, hein, dans la maman dans tous ses états. Hein. Donc on va feuilleter au fur et à mesure, c'est pas vraiment une histoire, on feuillette, c'est vraiment une litanie. Une maman c'est comme une maison, donc évidemment ça sert d'abri au départ, c'est bien pratique d'ailleurs. Et une maman c'est aussi comme un véhicule, parce que quand elle se balade avec son ventre rond, ben, c'est un véhicule. Une maman c'est comme un nid qui va vous en mitoufler dans des couvertures. Une maman, c'est comme le sommet d'une montagne. Et alors là, ça part dans des comparaisons absolument magnifiques. Une maman, je ne savais pas que c'était aussi diversifié, une maman. Mais c'est vrai.
C'est le monde, en fait.
Après, on peut dire aussi du papa, enfin, peu importe. Là l'image de la maman qui m'a l'air de se lever au petit matin et qui est vraiment très fatiguée, mais qui serre son tout petit contre elle, et elle est entourée de ses draps, et on dirait vraiment une montagne. J'ai l'impression qu'il y a plein de références à des tableaux connus, ou pas, au moins. Une maman, c'est comme un kangourou, hein. Des fois, on met des poches devant pour se balader. Une maman, c'est comme une fontaine. C'est très, très beau. Le papa donne à manger à la maman, et la maman allait le bébé avec sa fontaine de lait. Une maman, c'est comme une coquille. Une maman, c'est comme la lune dans la nuit. Une maman, c'est comme un refuge. C'est doux, comme un moteur. Enfin, voilà.
Les illustrations sont magnifiques.
Alors, les illustrations sont très, très belles. Il y a un véritable écho avec le texte, quoi. Elles ne sont pas là juste comme ça. Une maman, c'est comme un miroir. On voit cette maman qui prend son tout petit et qui approche son visage du sien. Et le reflet, tout ce que ça induit derrière d'amour, de tendresse et de force.
Les couleurs. On dirait des pantones en fait, tellement c'est
quoi des pantones?
Un pantone, c'est quand ils utilisent en fait des couleurs brutes, c'est-à-dire que c'est pas un mélange de rouge, de jaune ou de magenta,
basique, ouais.
C'est une couleur directe qui est appliquée sur l'impression, ce qui donne un peu l'effet de la sérigraphie, c'est-à-dire des couleurs qui sont très très vives.
Oui,
et là, je pense aussi bien sur la couverture avec le jaune et le rose qu'à l'intérieur, que c'est vraiment des couleurs qui sont flashy, quoi.
Ah bah, c'est un livre où on écarquille les yeux on le dévore, quoi. On le dévore vraiment, c'est réjouissant, c'est magnifique,
c'est graphique aussi.
En plus, c'est du vécu. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est du vécu d'Aurore Petit, mais voilà, c'est des choses qui vous rappelleront beaucoup.
C'est tout à fait un livre qu'on peut offrir à une naissance.
À une naissance, oui.
Pour faire plaisir à la maman, au papa.
À la fête des mères. Non, j'arrête.
Arrêtez,
avec la fête des mères. J'arrête avec la fête des mères.
Je n'aime pas ces fêtes-là.
Sachez-le. Non, mais c'est parce que j'avais dit.
Fête des mamans, c'est tous les jours.
Mais tout à fait, mais j'avais parlé d'un livre de la fête des mères. Un mois après la fête des mères, donc il n'y a pas de raison que j'en parle pas à Noël.
Bon, comme là on est trois mois avant, ça va.
Et une maman,
ou quatre mois.
C'est comme une route. Une maman, c'est comme une cascade. Une maman, c'est comme une récompense. Papa laisse partir l'enfant qui se met à marcher et se jette dans les bras de maman. C'est une récompense. Une maman, c'est comme une maison. Voilà.
Et la boucle est bouclée.
Voilà.
Très beau.
Super
beau. Ben moi aussi, j'en ai un très très beau. Très graphique aussi, ça s'appelle Le Centre du Monde de Karine Prash. Karine Prash, en fait, moi je ne la connaissais pas. C'est une jeune illustratrice qui a notamment vécu au Japon et ça se sent un peu dans son dessin. On sent qu'il y a un lien entre elle est française, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose qui l'a inspirée dans notamment le minimalisme.
D'accord.
Asiatique. Et là, ce livre, qui est son premier livre pour enfants, c'est une pure beauté, voilà. Donc, ça commence tranquillement, tout simplement au commencement du monde. Et là, on a le soleil qui ne tenait pas en place. Il traînait par-ci, revenait par-là. À force de se promener, il tomba sur la lune. La lune admirait tranquillement ce reflet dans un lac. Le soleil ne s'était jamais admiré nulle part, et il avait bien envie d'essayer. Il fonça droit vers la terre. Mais quelle ne fut pas sa déception lorsqu'il se vit enfin. Il ne ressemblait à rien. Rouge de honte, il repartit se coucher. Il raconta ensuite ses malheurs à la lune. « Moi non plus, je n'aime pas mon reflet quand je me regarde dans le lac, » lui dit-elle. « Il n'y a donc vraiment pas de quoi s'inquiéter. » Mais le soleil restait insatisfait. Il ne pouvait pas s'empêcher de jeter des coups d'œil à son reflet dès qu'il le pouvait. En plus, plus il se contemplait, plus il se rapprochait de la terre. Jusqu'au jour où la terre prit feu. Désemparé, le soleil chercha un instant son reflet parmi les flammes, mais celui-ci était introuvable. Il fit là. La nuit tomba et la lune se leva. Elle se mit à chercher la terre, qui n'était plus là où elle devait être. Elle la trouva enfin. « La terre est en mille morceaux !» s'écria-t-elle. Le soleil fit comme si de rien n'était. Mais la lune n'était pas dupe. Elle savait que c'était lui qui avait brûlé la terre. Alors, ils se disputèrent et se quittèrent fâchés. Heureusement, au fil du temps, la terre se recomposa. Les feux s'éteignirent progressivement et les océans et les lacs se remplirent de nouveau, jusqu'à ce que tout redevienne exactement comme avant. Le soleil en fut rassuré, mais n'oublia jamais cette histoire. Dorénavant, il se tiendrait tranquille. Ce serait la terre désormais qui tournerait autour de lui. Ainsi, le monde retrouva son équilibre. Et cela pendant des millions d'années, jusqu'au jour où les hommes commencèrent à enfumer la planète. Ils ne se rendaient pas compte des dégâts qu'ils causaient. La terre se réchauffait dangereusement. Depuis, le soleil et la lune observent les hommes abîmer la terre, dans l'espoir d'un jour où ils commenceront enfin à réparer leurs erreurs.
Wow.
Très beau texte, très belles illustrations. Et l'illustration est complètement est très abstraite et très minimaliste aussi. Alors aussi bien vous avez des couleurs flashy dans la maman. Là on est vraiment dans des tons, voilà, et c'est du vert foncé, du bleu foncé, du jaune.
En même temps il y a plein de lumière aussi. Hein.
Il est à la fois plein de lumière par le soleil, voilà. Enfin c'est un livre qui est vraiment très très beau. Vraiment c'est une vraie découverte d'une illustratrice. On est chez Helium et c'est déjà une illustratrice, Karine Prash, pour un premier album. C'est vraiment...
Ah oui, c'est quelque chose. Hein.
Ouais, on a hâte de voir.
On dirait un conte des origines. En fait.
Alors c'est inspiré, elle le met à la fin, c'est inspiré du mythe Narcisse et Écho des Métamorphoses d'Ovide.
Voilà.
Moi non plus, je ne le connaissais pas. On en apprend des choses.
Ah,
dans
bah,
le micro à nous.
Ah bah alors là.
Allez, vous en avez encore un petit dernier dans la catégorie des très beaux.
Des très beaux, et oui, que je le retrouve, voilà, ça s'appelle Odysse, rue des Jardins, recette du monde à partager, Felicita Sala, je ne sais pas, Krambourakis, petite maison d'édition qu'on adore, et déjà le livre est très beau, ce sont des recettes, ce sont à chaque double page une recette, alors on démarre quand même, c'est une maison, hein, et dans chaque pièce de la maison habitent des personnes d'origine différente. Ça sent bon, on dit de la rue des Jardins, des odeurs délicieuses, une odeur de fête, et sur chaque page, on va trouver des recettes, donc le salmo, je ne sais pas le dire ça, salmo reyo, ça doit
sans
être
doute.
Ça, avec un J en espagnol, on dit yo, c'est ça.
Oro.
Ah oui, salmorero. Oui, c'est mieux comme ça. Et donc, c'est la soupe catalane avec des tomates, du pain rassis, tout ça.
Donc, ce sont des vraies recettes. Je me suis posé la question parce que je ne connaissais pas le livre.
Enfin, si, l'histoire, c'est on va égrener les recettes, on va aussi les faire hein, parce que moi, je me suis amusée ce week-end à faire le salmorero. On va y arriver. Et puis le dalle indien avec des lentilles corail et tout. Il y a aussi la sole meunière. C'est Monsieur Lamar qui réfléchit à la meilleure manière de trancher le poisson. Il y a le guacamole avec Maria qui écrase des avocats à la fourchette. Il y a Signora Lella qui goûte sa fameuse sauce pour décider s'il faut ajouter du sel. Donc là, pour les spaghettis à la tomate. Très, très beau dessin de cet auteur, la Felicita. Et donc le dalle au lait de coco là, que j'ai testé, qui marche très très bien. Et on va retrouver tous ces personnages. Alors les mini-quiches de Madame Gray, on doit être en France, les boulettes
de dinde. Donc en fait, on visite toutes les personnes qui habitent dans le
jardin. Voilà, on va chez eux, on les voit préparer leurs recettes. Il y a les différents ingrédients qui sont dessinés. C'est vraiment très agréable, c'est un très très joli trait de dessin et de très belles couleurs.
Enfin,
des couleurs très douces. Et à la fin... Prenez une chaise, attrapez une assiette. Tout le monde est le bienvenu au 10 rue des Jardins. Et on retrouve tous les plats et toutes les personnes de la maison.
Ah, mais voilà, il faut faire en fait un repas partagé.
C'est ça.
Magnifique.
Voilà.
C'est pour la fête des voisins.
Et c'est pour la fête des voisins, si vous y tenez, monsieur Simon. En même temps, c'est un vrai livre de recettes et ça donne envie. C'est ça que j'aime dans les livres de recettes, qui donnent envie.
Ça donne faim, surtout.
Bah, faut d'abord cuisiner.
Non, c'est parce que j'ai faim, c'est pour ça.
Vous n'avez pas mangé, monsieur Simon?
Si. En tout cas, il est très très bon, je le confirme.
Krambourakis. On reconnaît, c'est marrant, je ne sais pas pourquoi j'arrive à reconnaître un livre Krambourakis dans ce dessin. Je sais pas, c'est bah, entre des illustrateurs ses... différents. Bah, hein.
En plus, il édite pas mal d'auteurs suédois, ouais. Enfin du Nord. Elle, pas du tout, parce que du coup, elle est née en Italie, mais elle est australienne.
D'accord.
Mais il y a ce côté aussi un peu anglo-saxon quand même, parce que moi, ça me fait penser un peu à Carson Ellis.
Ouais, 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 c'est vrai.
Notamment dans le trait, dans le dessin, dans les couleurs aussi utilisées. En tout cas, très belle découverte, encore une fois. Et ben on en a encore d'autres, des albums très beaux.
Bah oui.
Mais il y en a même qui font réfléchir un petit peu.
Oui. Alors là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je l'ai découvert vendredi. Et je vais vous le lire. Je vais vous le lire, je ne peux pas résister.
Vous avez compris que c'est vendredi de la semaine d'avant.
Oui, ça, on s'en fiche. Hein. Et donc, ça s'appelle « L'un et l'autre ». Et c'est tête bêche sur la première de couve et sur la quatrième de couve, c'est tête bêche aussi. Et c'est l'un et l'autre, toujours. Et c'est Laurent Tardy qui l'a écrit et dessiné. Et on est chez Bill Bocquet dans la collection Les Messagers. L'un, c'est lui, et l'autre, c'est lui. Là-bas, au loin, ils se sont trouvés il y a quelque temps déjà, 4 jours. 4 jours qu'ils s'observent, chacun de leur côté. À cet instant, au milieu de ce rien, c'est tout. Demain, peut-être ? Pendant qu'il est déjà trop tard, il pense qu'il peut s'en approcher. Mais rapidement, après, l'idée lui vient l'idée qu'il est tout aussi urgent de prendre encore son temps. L'un et l'autre se doutaient bien du mal qui s'approchait. Blessés et épuisés, ils s'attendaient au pire. Dans leur solitude, ils essayaient d'apercevoir encore les moindres miettes du bon côté des choses. Avaient-ils peur ? Peut-être. Une marée d'étoiles venait de l'horizon. Le froid. Toujours. Mais ils restent loin, eux qui sont si proches. Pourtant, il suffirait de... Le pire est là, juste à côté. L'un et l'autre aspirent à la chance d'être accueillis pour le petit, une chance bien alléchante pour le gros qui sûrement s'efforcera de recevoir pour le mieux ce bon petit naufragé. Doit-il en être ainsi ? Peut-être. Était-ce folie ou force ultime ? Mais le petit tenta sa chance. Le gros n'avait donc plus qu'à regarder s'approcher la sienne. À ce jeu de la chance, côté pile, c'est le gros qui gagnerait et côté face, c'est le petit qui perdrait. Pour l'un et l'autre, les dés sont jetés. Peut-être. Devoir rester dans l'eau, à s'efforcer de flotter. Mer glacée, roulie et vague à l'âme, le petit avait donc décidé, il s'y était jeté. Il suffirait d'une de ces bonnes étoiles pour qu'il puisse défier le pire. Naturellement, tout ne serait pas simple avant d'être moins compliqué. Ce défi leur demanderait de... Le petit se jeta à l'eau pour en sortir et espérer se mettre au sec. Aidé par le courant, il ne lui fallut que quelques battements d'ailes pour atteindre le gros. Puis, à côté de cet îlot, il lança un « Bonjour ! » Arriveront-ils à se comprendre, l'un et l'autre ? Peut-être. Le petit avait quelques notions de morse et parlait couramment l'otari, mais il n'avait osé. « Bonjour » était le seul mot qui lui était venu. Sans le moindre signe en réponse à son bonjour, le petit a continué. Mais il ne voulait en rien déranger celui qui venait de l'accueillir. Couché sur le côté, le gros ne bougeait pas. L'un et l'autre ne sont plus seuls. Peuvent-ils espérer mieux encore ? Peut-être. L'idée de lui fredonner une berceuse lui avait traversé l'esprit. À choisir, un tango aurait été peut-être plus judicieux sur cet îlot qui continuait de se balancer d'avant en arrière. Cela leur demanderait d'être ensemble, maintenant qu'ils n'étaient plus seuls. Sous la mer d'étoiles, qui finissait de traverser le ciel, il leur faudrait continuer de... Inquiet de réveiller le gros, sans le vouloir, le petit s'est approché, doucement, un peu plus encore. Des frissons lorsqu'il se frôle, mais aussi de larges blessures sur le dos, le flanc et les côtes du gros. Alors le petit se presse au chevet de son hôte. L'un et l'autre ont de commun l'envie. Cela serait suffisant ? Peut-être. Le petit reste aux côtés du gros et prend bien soin de lui. Chaque jour lui rapporte de quoi manger. Les deux réfugiés se contentent de manger les mêmes choses. Et les soirs, le petit s'engouffre sous une couverture de poils chauds et doux. L'un et l'autre peuvent commencer à penser que le pire s'est éloigné. Peut-être. Au chaud, le petit philosophait. Activité tout aussi appréciée de son compère. Être ou ne pas être. Ou la question, qu'est-ce que le pire ? Où est le mieux ? Ils ont continué, soigné leurs blessures, affronté des tempêtes et vaincu le pire. Devant ce nouveau jour qui se lève, ils sont prêts désormais. L'un ne sera rien sans l'autre, ensemble. Ça faisait longtemps, je lis beaucoup de choses magnifiques, mais des choses qui me donnent de tels frissons. c'est pas si souvent que ça.
Alors, ça s'appelle...
L'un et l'autre. Le petit, c'est un manchot qui est à la dérive sur un tout petit morceau de glace. Le gros, c'est un ours blanc qui est échoué, qui compte bien se taper le manchot pour son petit déjeuner ou son dîner. Et puis, peut-être ou pas. Voilà.
Il y a beaucoup de peut-être dans l'histoire où on ne sait pas, en fait.
Et l'illustration est en écho à ce texte d'une poésie, d'une force et d'une philosophie aussi, qui n'est pas un texte simple d'ailleurs, mais tellement beau. Et l'illustration vient donner écho à toute cette histoire. Elle est magnifique.
Alors, il faut dire que c'est Laurent Tardy qui fait les deux. Hein. C'est
illustration.
Il est auteur-illustrateur. Ouais. Ça fait. Il fait quasiment un livre par an avec les éditions Bilboquet, ouais, en tant qu'auteur illustrateur.
Son nom me dit quelque chose, mais je ne connais pas trop.
C'est vrai que du coup, ça, ils doivent être au moins 8 ou 9 albums ensemble. C'est une belle collaboration, mmh, et puis une belle confiance qui est faite à la fois à l'auteur et à l'éditeur.
Un beau message des messagers.
C'est le titre de la collection, effectivement.
Voilà.
Ben moi aussi, j'en ai un très très bel album qui fait réfléchir, mais qui en même temps est super. Ça s'appelle La Valise de Chris Naylor Ballesteros. C'est publié chez Kaleidoscope et j'ai eu aussi un vrai coup de cœur. Ça nous raconte l'histoire, en fait, d'un personnage, d'une petite bestiole, en fait, un drôle d'animal qui arrive un jour, qui arrive chez nous, en fait, et il traîne une grosse valise derrière lui. Alors ceux qui sont déjà là vont venir le voir, lui demander hey, qu'est-ce qu'il y a dans ta valise. Et le petit bonhomme, il dit il y a une tasse de thé. Alors, il y a un deuxième qui arrive, il dit ah bon, mais c'est une grosse valise pour une tasse à thé. Oui, mais il y a aussi une table pour ma tasse à thé, et aussi une chaise en bois pour m'asseoir. Il dit, ah bon, il y a une chaise en bois, c'est pas possible ça. Enfin, c'est sa valise quand même. Oui, mais une tasse à thé, une chaise en bois, vraiment. Oui. Et il y a aussi une cabane avec une petite cuisine. C'est là que je prépare mon thé, c'est mon chez-moi. La cabane est sur une colline entourée d'arbres. Et les jours de beau temps, on peut voir la mer, tout est là dans ma valise. Alors les autres, évidemment, ils n'y croient pas du tout, quoi. Donc il y en a un qui est très très sceptique, notamment, qui va forcer les autres un petit peu à dire non, mais il nous raconte n'importe quoi. Parce que pendant ce temps-là, l'autre s'est endormi, en fait. Il était trop fatigué.
L'étranger, enfin donc, celui qui arrive avec sa valise.
Celui qui est arrivé. Et donc ils vont forcer la valise.
Ah là là, voilà. C'est pas beau ça.
C'est pas beau. Et dedans, ils voient effectivement la tasse de thé qu'il casse en plus.
Oh là.
Et une photo.
On dirait moi.
Une photo où ils ont tout. Tout ce qu'il a décrit, finalement, c'était là, quoi. Et donc, ils sont bien embêtés, ils sont un peu tristes pour lui. La chute est très, très belle, parce qu'ils vont réparer, évidemment, la tasse thé, mais ils vont surtout reconstruire tout le décor qu'il y avait sur la photo. Et l'accueillir. C'est un très très bel album. C'est un album évidemment sur l'accueil, sur plein de choses. On peut y mettre des choses graves, on peut y mettre des choses plus légères selon les enfants à qui on s'adresse. Moi je l'ai déjà testé en lecture devant des enfants de tous les âges et franchement c'est un album qui marche très très bien, aussi bien auprès des tout petits puisque le message est très clair et très simple, que pour les plus grands qui se disent tiens ça me rappelle quelque chose, des situations que je vois des fois. En tout cas c'est un par sa justesse et par sa simplicité, c'est un livre qui est essentiel et vraiment on a besoin des livres comme ça en ce moment. Donc ça s'appelle La Valise, c'est écrit et dessiné par Chris Naylor Ballesteros. Alors, Chris Naylor Ballesteros, il vient du nord de l'Angleterre, il est à la base musicien et graphiste, et il a fait des albums pour jazz depuis quelques temps, et il vient de s'installer à côté de Limoges.
D'accord.
Voilà.
Un anglais de plus chez nous, c'est
exactement.
Merveilleux.
Exactement, en tout cas des anglais comme ça, on en veut tous les jours. allez, on enchaîne encore avec un nouveau coup de cœur, allez. Il faut bien qu'il y en ait un qui ait le jingle coup de cœur, c'est celui-ci. Ah oui. Il fallait bien un jour que ça arrive. On n'arrête pas de parler de ces livres, donc il fallait bien qu'il y ait un jour ce soit notre coup de cœur. C'est les livres de Thierry Dedieu. Voilà, on en présente assez souvent quand même pour tous les âges, hein, parce qu'on sait que c'est un peu le caméléon de la littérature de jeunesse, tout. Tellement il est capable de se
transformer,
de se transformer cacher, en tant qu'auteur, exactement. Et donc, comme nous sommes en décembre et qu'il n'y a quand même assez peu de livres sur Noël qui sont qui me ravissent en fait le cœur.
Hein.
C'est souvent très classique ou un peu chanchant ou un peu concon. Et bien quand on en a un qui n'est pas comme ça, ça nous fait extrêmement plaisir. Et Thierry de Dieu, ça fait plusieurs années qu'il fait plusieurs albums sur Noël qui sont absolument géniaux. Le petit dernier, il s'appelle Noël au printemps et comme d'habitude, c'est un plaisir. Allez, on va vous faire une petite lecture. Ces cinq-là ne se quittaient pas. Ils étaient unis comme les doigts d'une patte. La chouette, le rouge-gorge, le mulot, le hérisson et l'écureuil, copains comme cochons. Ces inséparables passaient leur journée à discuter, à jouer, à se déguiser, amis pour la vie. Mais à partir de novembre, l'ambiance n'y était plus. Petit à petit, le jovial hérisson se faisait de plus en plus discret. Son enthousiasme s'éteignait. Et la tristesse s'installait sur son visage et sur celui de ses copains. L'hiver approchant, il devait se mettre en quête d'un nid pour hiberner. 5 longs mois à qui allait le priver de sa bande d'amis. Pour les autres aussi, hein, cette séparation était mal vécue et malvenue. Chaque année, la même question trottait dans leur tête. Comment pouvait-on rater la fête de Noël? L'ambiance féerique, les promesses de cadeaux, les batailles de boules de neige. Ses amis lui racontèrent le sapin, la neige, les décorations, les cadeaux, les repas de fête. Et le hérisson s'était laissé convaincre. Mais à l'heure où tout le monde ouvrait ses cadeaux, le hérisson piqua du nez, et pour plusieurs mois. Pour un autre Noël, ils décidèrent que le hérisson serait présent, qu'il le veuille ou non. Hélas, le résultat ne fut pas au rendez-vous, et l'absence de leur ami se fait ressentir encore plus. Ce matin-là, alors qu'il portait un cadeau au pied du hérisson pour qu'il l'ait à son réveil, le rouge-gorge eut une idée. Et si l'on décidait de fêter Noël au printemps? Nous serions tous enfin réunis. Mais comment n'y avait-il pas pensé plus tôt? Et au printemps suivant, tout ce petit monde s'activa pour que la fête soit belle. Et quand le Père Noël arriva pour distribuer les cadeaux, l'émotion se lut sur tous les visages. Pourtant, une chose manquait cruellement, la neige. C'était sans compter sur le mulot, il avait pensé à tout. Ce 7 avril fut le premier de leur plus beau Noël.
Wow.
Voilà, là vous aviez que le texte, mais allez voir les illustrations de Thierry de Dieu, elles sont sublimes. C'est tout en douceur, tout en finesse, tout en poésie. Et ces personnages, on a envie de les suivre, on a envie de continuer à être avec eux. C'est un vrai beau conte de Noël.
Il y a presque des
très court
pour certaines choses.
Ouais, c'est trop trop beau. Ouais. Allez, on continue dans les moments trop trop beaux et on écoute un deuxième morceau de Lady Do et Monsieur Papa, ça s'appelle Les Cris, les Crocs.
Ce n'est pas l'orage qui gronde, ce n'est pas l'eau tombant du ciel, ce n'est pas l'autre bout du monde, c'est ici même. Ce n'est pas l'ouragan au loin, ni la louve, ni le félin, c'est comme une petite bombe dans mon monde. C'est la colère des grands qui souffle comme un mauvais vent, qui siffle au-dessus de ma tête l'amour en miettes. C'est la crise et puis les crocs qui ont fait comme un accro, qu'ils s'empêtent. À petits pas dans le couloir, je guette le bisou du soir, que cesse tambours et tempêtes. Et tandis que tombe la nuit, une main sur mon front me dit: t'inquiète, tu sais, les histoires de grands font comme un grand courant d'air dans la tête. On voudrait partir en courant, plus vite que le mauvais vent, qu'ils s'empêtent. C'est le soleil après la pluie, le le bleu du ciel après le cri. Un oiseau chante dans ma tête. Le chat ronronne près du chien et les loups, la main dans la main, font un concours de pirouettes. Tu vois, les histoires de grands tournent plus vite que le vent, que les girouettes. On voudrait partir en courant plus vite que le mauvais temps. Plus de crises, plus de crocs, on a recousu les accros. Ah, qu'ils sont bêtes. Ah, comme c'est bête. Ah, qu'on est bête.
Fait du bien.
Ah oui, oui.
On est bien.
Ah, on est bien.
Ah, vous étiez presque endormi.
Ah non, pas endormi, bien.
Non, vous
bien.
Étiez bien, d'accord. Non, parce endormi. Que vous vous piquiez ah, un
pas,
peu du nez.
Non.
Ah, d'accord, pardon.
Non, c'est pas mon genre.
Vous voulez reprendre la main peut-être pour nous parler d'un petit conte ?
Eh oui, un petit conte, voilà, un petit conte qui va nous... Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, ça s'appelle « L'abominable Monsieur Stoppel, Stoppel, de Grégoire Kojian. Oh bon, alors je vais avoir du mal. Kojian. Merci.
Ah, je ne vous aide pas.
Et Hippolyte, et Hippolyte aussi, chez A... L'atelier du poisson soluble, le petit poisson qui se dissout dans l'eau mais qui revient à chaque fois. Voilà. Donc, c'est un livre rouge et noir, assez noir quand même, parce que cet abominable monsieur Stoppel, eh bien, il est véritablement abominable, il est épouvantable. Il déteste les enfants, il déteste tout le monde, il passe son temps. En plus, sa haine, il l'exprime bien sur la terre entière, partout où il va. Et par exemple, la nuit, quand tout le monde dort, il pénètre dans les chambres à coucher par une fenêtre ouverte ou un trou de cheminée. Une fissure dans un mur lui suffit pour faufiler son ombre qui disparaît aussitôt dans la pénombre. Et là, avec ses longs doigts griffus, il gratte doucement les croûtes des gamins, de celles que l'on fait en tombant sur, qu'on se fait en tombant sur les chemins. Et puis, il les trie, les titille, les mordit, et si elles croustillent, il les déguste en salivant. En plus, il est dégueulasse. Monsieur Stoppel est dégueulasse. Voilà. Et dégoûtant. Certains disent qu'il tire les plus épaisses qu'il tire des plus épaisses. Enfin, c'est son secret de son éternelle vieillesse et sa force. Hein, c'est pour vous dire à quel point. Donc c'est atroce. Enfin, on est vraiment dans le dégoût, la dégoûterie absolue. Ouais, voilà.
Mais par contre, quelqu'un d'un petit peu vieux, éternellement le vieux, qui passe par les cheminées, qui va.
Ah ben attendez.
Ah pardon.
Non, vous avez triché là.
Mais non, parce que ça me fait. C'est l'époque, en fait, c'est l'époque. Donc moi ça me fait penser.
Je ne vois pas du tout.
D'accord.
Non. Toujours est-il, bref, que les fées ont dit. Même les sorcières, elles n'en peuvent plus, le Stoppel là. Donc elles ont dit on va te l'attraper, celui-là, et on va lui faire sa fête, enfin, on va lui faire un procès. Mais c'est des fées. Même les sorcières, elles ne sont pas à la hauteur de Stoppel. Donc. Elles font le procès, ils l'ont attrapé, ils ont eu un peu de mal et tout, mais elles l'ont attrapé. Bon, il est là sur le banc des accusés, alors la litanie de ses horreurs défile, et il faut bien trancher sur une punition, une condamnation. Mais comme c'est des faits, c'est les faits qui décident, ben c'est super... c'est difficile d'être dur, quoi, d'être ferme, d'être... Donc elles décident...
Elles sont un peu molles les faits, en fait.
Ouais, elles sont un peu molles les faits. Et donc, elle décide de le condamner à un jour par an. Un jour par an où il devra être gentil. Ah. Et là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire « Ouais, ok, ça c'est super comme punition, voilà, il ne va pas avoir le choix. » Et en plus, dans la tradition de ce pays, voilà, il va porter le manteau rouge des condamnés. Voyez-vous cela ?
Ça me rappelle vraiment quelqu'un,
oui.
C'est bizarre.
Donc, Monsieur Stoppel, voilà.
Ah, c'est super.
Ce seul jour dans l'année.
On va pas le dire pour de vrai,
obligé.
Comme si c'était encore un mystère.
Bah, oui.
C'est super.
Ben voilà. Et, ah, et ça me plaît
cette histoire.
Ça me plaît bien. Oui. Et les illustrations
qu'en
sont.
En fait, il n'est pas du tout sympa.
C'est un peu la Tommy Ungerer et les trois brigands. C'est vraiment une ambiance impertinente, un peu transgressive. Enfin, voilà, bah, déjà pour bouffer des croûtes de. Voilà.
Ouais, c'est pas très sympa.
Sauf que bah, voilà, les enfants finissent par bien l'aimer, Monsieur Stumpel, et puis bah, l'adopter, puis même l'adorer, parce qu'ils l'attendent. Ils l'attendent évidemment très longtemps pendant l'année, ce fameux jour où il va venir leur amener des cadeaux, puisque c'est une de ses punitions, il est obligé d'amener des cadeaux aux enfants. Vous imaginez un peu l'horreur, quoi. L'horreur. Sauf qu'ils se demandent des fois, les enfants se réveillant le lendemain matin, ils avaient une croûte la veille et elle a disparu du genou.
Il reste quelque chose.
Voilà.
C'est bien.
J'ai adoré.
Ah oui, ça a l'air super.
J'ai adoré. Ouais.
Le Grégoire Cogent, c'est un dramaturge. En fait, il a beaucoup travaillé pour le théâtre, notamment des petites pièces qui sont chez Siros, qui sont souvent utilisées.
Bah ça pourrait se jouer.
La chaise ou la manifestation, mais même dans ses contes, parce qu'il écrit aussi pas mal de contes. Il avait déjà écrit des contes à l'atelier du Poisson Soluble. Et il y a ce côté très théâtral qui est génial.
Complètement, ouais.
Enfin, on voit déjà la mise en scène.
On voit le tribunal, là.
Voilà, c'est ça. Bon, bah, super. Bah, ça me donne très envie de le lire. Et merci, Véro.
Mais de rien.
Eh bien moi aussi, je vais essayer de vous donner envie de lire ce petit texte, parce que c'est absolument savoureux. Ça s'appelle « Pas perdu » de Bruno Gibert. C'est publié à l'École des loisirs, dans la collection 9. Alors c'est vrai, dans la collection 9, on a plutôt l'habitude d'avoir des romans, en fait. Et là, non, c'est plutôt un petit jeu littéraire. Saviez-vous que Bruno Gibert a une manie depuis des années? C'est que quand il se balade dans la ville, il voit souvent, comme nous tous en fait, placardé sur les murs, vous savez, ces petites affichettes où quelqu'un désespérément recherche son chat ou son chien qui a disparu, qui s'est perdu. Et c'est vrai que c'est à la fois dramatique, mais il y a quelques fois où c'est un petit peu...
Too much ?
Non, ça peut être... C'est mal, c'est pas très bien fait, c'est pas fini, voilà. Et il s'est dit, bon, ça c'est du côté des maîtres, donc c'est très bien, mais du côté des animaux, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il a repris ses photos, donc il y a les vraies photos dans le bouquin.
Ah oui.
Et puis après, il a imaginé les animaux qui venaient de disparaître. J'en ai un, par exemple. Chat perdu, 2 ans. Donc, on voit la photo du chat voilà, qui est en train de se prélasser devant son ordinateur. Oublié, samedi 23 juillet, dans son sac noir de transport sur le trottoir 5 boulevard Bourdon. Il s'appelle Gino et il serait heureux de rentrer rapidement à la maison pour retrouver sa petite sœur. Merci de me recontacter si vous l'avez trouvé et recueilli entre-temps. Benjamin. La lettre du chat. Benjamin, tu comprendras en lisant cette lettre que je ne suis pas pressé de te retrouver. Je suis en colère, Benjamin. Super en colère même. Contre qui tu te demandes? Contre toi, pardi. Sache que ton regard désolé et tes plates excuses n'y changeront rien. Si tu avais la volonté de te faire pardonner en m'offrant les plus beaux pavés de ce monde du monde, eh bien ça ne changerait rien non plus. Le mal est fait et bien fait. Je le répète, je suis furieux contre toute ta personne. Je feule d'indignation. Je suis toute griffe dehors lorsque je pense à toi et ce que tu m'as fait. Oh, ne fais pas l'étonner, hein, tu sais parfaitement de quoi je parle. Tu te souviens très bien de ce samedi 23 juillet et du boulevard Bourdon. C'était l'été, il faisait beau et chaud, trop beau et trop chaud peut-être pour ton petit crâne de pierre chauve. Tu avais des paquets, des valises à chaque bras, ainsi qu'une plante verte. Tu essayais de faire rentrer tout ça dans le coffre de ta voiture. Tu soufflais, tu pestais, et puis ton téléphone a sonné. Tu as tout posé en vrac pour parler à je ne sais qui, un copain, une copine. Tu riais très fort en tout cas. Après, tu as cru reprendre tout ce qui était resté sur le trottoir. Et puis tu as claqué les portes de ta voiture. Et tu t'es installé au volant et tu es parti. À travers la grille de mon petit sac noir oublié sur le trottoir, je t'ai vu t'en aller, Benjamin. J'ai miaulé, mais c'était trop tard. Dans un bruit de pneus qui crisse, tu avais déjà rejoint le boulevard. Je me suis dit, même idiot comme il est, il va bien s'apercevoir qu'il a oublié un sac, celui de Gino, avec Gino dedans. Peut-être que toi-même, tu t'es dit ça pendant une seconde au moins. Juste une seconde. Avant de mettre tes écouteurs et de chanter sur je ne sais quel air idiot. Avant de boire une gorgée d'eau et de penser à autre chose. Et tu n'es pas revenu. Non, pas revenu.
Eh ben...
Il en reste encore un petit peu. Alors, celle-ci est à la fois drôle, mais pas... voilà. Il y en a d'autres qui sont extrêmement drôles, tout du long. Il y en a qui sont émouvantes. Il y en a, c'est juste des petits moments. C'est un chat qui décide de faire un petit tour, puis qui revient. Il change de style à chaque fois, comme si c'était un petit exercice littéraire. C'est savoureux. Franchement, je vous conseille vivement d'aller regarder ce livre.
Il
y a des chiens. Il y a des chiens. On a par exemple, qu'est-ce qu'on a comme chien? Voilà, on a... Je réponds au nom de Bao et j'ai 1 an. Je n'ai pas de collier pour m'identifier. Je ne suis pas du tout méchant. Je cherche même beaucoup les caresses. Je suis parti de chez moi ce matin, 13 mars, et je n'ai pas l'habitude de partir aussi longtemps. S'il vous plaît, appelez ce numéro si vous m'avez vu. Voilà. Et donc, à chaque fois, les textes sont géniaux. Franchement, c'est un grand, grand plaisir de lire les textes qu'il a inventés. Vraiment, c'est un gros coup de cœur, ce pas perdu de Bruno Gibert à l'école des loisirs. Bruno Gibert, on le connaît surtout en tant qu'illustrateur.
Illustrateur, hein. Oui.
Voilà, il avait fait le petit Gibert illustré, notamment.
C'est lui qui fait des détournements d'objets oui. qui sont extraordinaires.
Bah dans le petit Gibert illustré, justement.
Ah oui, c'est
ouais,
dans le
ouais. petit... Et c'est génial, c'est génial. Donc on retrouve hein, son côté très inventif, pardon.
Inventif, non.
Non, inventif.
Inventif, et... c'est pas une insulte. Hein.
Mais c'est un très très beau livre. Allez, on enchaîne avec un autre très très beau livre. Ça s'appelle La Cavale. C'est écrit par Ulf Stark et illustré par Kitty Crotter. Alors, Ulf Stark, je sais pas si vous le connaissez, Véronique.
Ben non.
Eh bien non. Eh bien, moi non plus. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que sinon vous m'auriez...
Ça aurait pu vous aider.
Ah, non, mais voilà.
Ben non, même
non.
pas.
Ulf Stark, en fait, c'est un considéré comme l'un des plus grands écrivains suédois pour enfants et adolescents. Son œuvre qui est vraiment appréciée dans beaucoup de pays, ne l'est pas du tout en France, puisque c'est le premier roman qui vient d'être publié en français de ce grand auteur. Et c'est le dernier qu'il a écrit. Alors, il est mort en 2017. Et donc, on le découvre vraiment après la bataille. Mais si tous les autres textes sont de cette qualité, on ne devrait pas tarder à avoir d'autres textes de ce grand monsieur qui arrive. En plus, Pastel, là, les éditions Pastel ont fait les choses très très bien, puisqu'elles ont ils ont demandé à Kitty Crotter, autrice maison de chez Pastel depuis des années, d'illustrer ce roman. C'est un roman qui est plein de sensibilité. On va suivre l'histoire de Gottfried. Gottfried, c'est un jeune garçon qui va souvent voir son grand-père à l'hôpital. Son grand-père, on comprend vite qu'il est assez gravement malade, qu'il a dû quitter sa maison familiale pour pouvoir vivre et être médicalisé en fait dans un institut, sauf que ça lui correspond pas du tout. Son grand-père, c'est quelqu'un qui avait une grande bouche, qui parlait fort, qui dit beaucoup de gros mots et qui est toujours en colère. Et on le voit bien dans sa maison être en colère contre tout le monde. Voilà. Et sauf que là, il commence à déprimer, il maigrit ce gros monsieur qui, voilà, donc ça ne va pas du tout.
Il n'y a plus de colère.
Non, et Gottfried, du coup, il se dit, il faut faire quelque chose. Et donc, il va se faire aider par Ronnie. Ronnie, c'est le boulanger mécanicien qui est un petit peu farfelu. Et ils vont organiser la cavale. Donc, ils vont délivrer le grand-père pour l'emmener jusqu'à la maison de la falaise, qui est la maison dans laquelle il a vécu avec grand-mère. Et il voudrait bien lui montrer une dernière fois cette maison. Donc c'est un roman où on alterne les parties vraiment humoristiques, les parties plus émouvantes, avec ce grand-père qui, au fur et à mesure qu'on apprend à aimer, malgré ses gros mots, malgré tout ça. En tout cas, c'est un texte qui est en plus sublimé par l'illustration de Kitty Crotter. C'est une petite pépite, hein, vraiment. Si vous voulez faire découvrir ça à vos enfants qui lisent déjà, je vous conseille ce titre « La cavale » d'Ulf Stark.
Et c'est un beau livre en plus.
Et illustré par Kitty Crotter. Effectivement, c'est un beau livre chez Pastel. Allez, on arrive tranquillement vers la fin de l'émission. Donc, on va parler de romans ados, comme d'habitude.
Et ben oui.
Vous avez des petits coups de cœur ?
Des gros coups de cœur. « Par le feu » de Will Hill, donc il doit être américain. Chez Casterman. C'est un choc. Voilà, c'est un choc que j'ai eu.
Allez.
Je vous lis donc le titre, c'est Par le feu. Couverture rouge, comme le feu. Il y a des injonctions en dessous le titre. C'est ne sors pas de la base, ne parle pas aux étrangers, ne pense pas, obéis, car le Seigneur est bon. Voilà. Avec quoi a été élevé, si on veut conserver ce terme, Moonbin dans cette communauté de la Légion, avec un grand L, c'est comme ça que ça s'appelle, depuis quasiment sa naissance. Et on va la rencontrer, la première fois qu'on la rencontre, elle est à l'hôpital, après la destruction de cette communauté, elle a la main complètement brûlée, et un psychologue vient la voir, pour commencer à lui poser des questions, pour comprendre ce qui s'est passé, comment elle a vécu, dans quel état est son cerveau aussi, donc comment elle est, on va dire, manipulée et soumise à une autorité actuellement invisible, on va dire, puisque tout a disparu. Et il va être, pas aidé, mais accompagné par un agent du FBI qui veut, lui, savoir ce qui s'est passé aussi dans cette légion, qui est une secte, évidemment, on l'a compris, où il y a eu des centaines de morts et très peu de rescapés, dont Moonbin. Moonbin qui, à la fois, se sent entend encore la voix de ce fameux père John qui dominait cette communauté et qui imposait ses lois qui lui étaient soi-disant dictées par Dieu directement. Et en même temps, elle ressent une culpabilité épouvantable parce qu'elle est persuadée qu'elle est à l'origine de la destruction de cette communauté. Alors, ce qui est intéressant dans le personnage de Moonbin, c'est qu'il y a cette jeune fille, elle a 17 ans à peu près, qui a toujours été dans cette base, dans cet endroit, dans cette communauté, et qui, très tôt, a commencé à douter. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux personnes en elle. Il y a la personne qui est soumise, qui va d'ailleurs, elle va perdre sa mère, elle va perdre son père, enfin, elle vit des choses extrêmement difficiles les adeptes de cette communauté. Et en même temps, donc elle va être promise comme épouse au père John aussi, qui aura plusieurs épouses, mais il n'y aura pas eu de passage à l'acte. Hein. Elle a toujours eu des doutes, toujours eu une petite faille en elle. Et ce qui est extraordinairement montré, c'est que cette faille va la porter, va l'aider et va l'aider à... non pas détruire la communauté, mais va l'aider à faire que cette situation aboutisse et qu'elle puisse sortir, elle et ses frères et sœurs, de cette situation. C'est d'une force absolument incroyable, c'est assez long, il y a beaucoup de flashbacks sur la vie de cette communauté où on comprend mieux comment ça fonctionne, hein. C'est comme ça, on peut dire, et comment les armes sont très très présentes aussi, puisque les gens du dehors, d'après le père John, sont les servants du serpent, hein, on va y arriver, et qui doivent venir évidemment les exterminer, et donc ils les préparent, les tout petits comme les plus grands, avec des armes à se battre jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et donc je pense que pour pas mal de gens ça va évoquer, et c'est ce qu'ils disent de toute façon sur le roman, c'est inspiré de l'histoire vraie de Waco, hein, la secte, je sais plus comment il s'appelait, ces fous furieux d'ailleurs, qui se trouvaient au Texas et qui ont été arrêtés par le FBI, on va dire, enfin infiltrés et tout. Mais du point de vue de l'adolescente qui passe des deux mondes et qui raconte son monde d'avant et comment elle va devenir une personne pensante, je pense que sa plus grande force, c'est ce doute et le fait de douter, lui intime d'aller vers la liberté. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifiquement écrit. Moi, c'est palpitant et envoûtant, mais c'est ça.
C'est un livre qui a été largement reconnu par la communauté des blogueurs, notamment.
Ouais.
Enfin, des blogueuses, pour la plupart.
Mademoiselle.
Qui a été très, très repérée et qui a marqué ceux qui l'ont lu dans son intensité, dans sa force.
Exactement.
Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là.
Pas vraiment.
Littérature adolescente.
Peut-être pas de ce point de vue aussi profond. Parce que l'auteur va jusqu'aux mécanismes cérébraux, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Comment Parce qu'on a du mal à imaginer comment on peut être sous l'emprise de quelqu'un de cette façon-là, en vivant des horreurs au quotidien. Et on comprend bien comment ça peut se passer pour n'importe qui.
Vous rappelez le titre et les...
Par le feu, Will Hill, H-I-2-L, et on est chez Casterman.
Très beau texte, donc. Et vous en avez un deuxième?
Alors là, c'est mon grand, grand coup de cœur.
Beaucoup d'émotions là.
Non, c'est pas de l'émotion. donc, Comme des images de Clémentine Beauvais, qu'on aime beaucoup, chez Sarbacane, un roman exprime. Je ne l'ai pas écouté parce que les romans exprimes, ils donnent toujours une playlist. Là, la playlist, il y a du Gainsbourg, il y a Brigitte Bardot, Françoise Hardy, Karen Anne, Carla Bruni, ne sais pas, Blondie, Jean Ferrat, enfin, c'est Karen Anne, si on est un peu. Et connaissez-vous H4?
H4. Oui, c'est Henri IV.
Ah bien, Monsieur Simon.
Oui. Non, je l'ai déduit parce que j'ai lu le livre, en fait, parce que sinon je ne connaîtrais pas H4.
Et bien, moi non plus, je
ne fais pas partie de...
Voilà.
Je suis plus Ambroise Paré ou...
Ou Denis Rousseau.
Voilà, c'est ça.
Et voilà, donc
c'est le nom des lycées à la
base. H4, c'est le lycée Henri IV, hein, rue Clovis, dans le 5e arrondissement. Un lycée absolument prestigieux, très ancien, très très ancien. Et... Et dans ce lycée, donc, on va rencontrer la narratrice, dont on ne saura jamais le prénom, mais qui va parler de son amitié avec Léopoldine et Iseut, des jumelles, qui sont très différentes, très, très semblables physiquement, mais très différentes l'une de l'autre. Elle est plus proche, elle a été un petit peu amie avec Iseut, mais elle est plus proche de Léopoldine, elle la suit un peu comme petit toutou quand même, elle est perdue d'admiration devant Léopoldine. Quel genre de fille très libre, très, comment on dit, populaire, voilà, c'est ça, hyper populaire et tout. Mais sauf que la pauvre Léopoldine, eh ben, elle vient de rompre avec son amour d'enfance, hein, ça faisait un moment qu'elle était avec lui, et Timothée, je crois, et donc pour tomber dans les bras d'un autre garçon, voilà. Ouais, une histoire d'amour qui commence. On est sur des embrouilles normales de lycée, sympathiques, qui sont toujours très dramatiques pour les... Oui, non, mais au départ. Enfin, c'est pas sympathique, mais c'est des embrouilles. C'est des embrouilles qu'on va pouvoir retrouver assez régulièrement. Et on va passer sur une tragédie quasi racinienne, je dirais. C'est vraiment magnifiquement mis en scène. D'ailleurs, on commence par la tragédie, parce que cette narratrice arrive dans son lycée Henri IV, tout propre, tout beau, parce qu'on va se taper quand même, je ne sais pas combien de pages, avec les rejetons de la plus haute bourgeoisie parisienne, hein, quand même. Sauf qu'au bout d'un moment, on oublie ces rejetons. Alors, on n'oublie pas complètement, parce qu'elle en parle toujours plus ou moins, mais c'est des ados. C'est des ados qui vibrent, qui vivent, qui sont d'une grande force aussi, comme ils savent l'être. Et donc, voilà, on va évoluer avec eux et avec cette narratrice qui, quand même, en arrivant, et c'est ça qui nous met en haleine, on veut plus lâcher le truc, elle tombe sur un corps qui vient de tomber de la tour Clovis dans le lycée Henri IV, quoi. Vous imaginez le scandale. Et ça, c'est le plus gros scandale. Puis on a un petit avant, quand même, avec une histoire de vidéo qui circule où la Léopoldine, elle se serait laissée aller, hein, pour le plus grand plaisir de Tim. Donc, nous sommes toujours bien à Henri IV, le lycée de la haute bourgeoisie, machin truc. Et donc, ça déménage dans les serre-têtes, hein, c'est ça. Alors, voilà, on est sur le style, avec le style de Clémentine Beauvais, qui est d'un réalisme en plus, d'une drôlerie. Je ne vais pas dire d'une... Enfin, j'avais dit d'une fraîcheur, mais j'avais un autre mot. Et comme j'ai perdu mon papier, vous voyez, voilà, je ne l'ai plus. Mais enfin, c'est...
Il y a du cynisme aussi dans ça.
Vous voyez du cynisme.
Ah ouais.
Moi, je vois pas de cynisme.
Pas dans son écriture, hein, mais dans ce
l'histoire.
Qu'elle raconte. Ouais.
Ah bah oui, mais...
Oui, vas-y.
Ouais. Et il y a aussi une chose que j'ai trouvée grandiose, mais vraiment grandiose. Donc, je me souviens de la page, c'est pour vous dire. Hein. C'est la narratrice qui parle avant le grand drame. Alors, évidemment, je ne vous dirai pas qui est le corps qui est tombé. Hein, et il y a une histoire d'amour extrêmement forte et... On est entré dans le CDI. J'ai accidentellement, je vais y arriver, levé les yeux vers le plafond, chapeau cloche, et je l'ai accidentellement revu, ce plafond. Sa coupole aveuglante de lumière, ensanglantant mon champ de vision de larges taches carmin, ses fresques aux couleurs déchiquetées par le temps, hurlantes de dorure, sa tournoyante circularité. Donc, quand elle parle du lycée, Henri IV, c'est un personnage. C'est un personnage avec toute son histoire, son prestige, sa gloire, en fait. Et c'est son côté écrasant aussi. Et je trouve que ce personnage, Henri IV, est partie prenante dans l'histoire totalement, quoi. Et je trouve ça magnifique. Magnifique. Lisez-le comme des images. Clémentine Beauvais.
Donc, il faut savoir que c'est une réédition, en fait, d'un texte qu'elle a écrit.
Bon, voilà.
Qu'elle a écrit avant Les Petites Reines, Songer à la douceur et avant Brexit Romance. Donc, c'était vraiment...
Qui avait été édité où?
C'était chez Sarbacane, hein, déjà. C'était un des romans fondateurs.
Chez Exprime, peut-être.
Chez Exprime.
Ah, bah ouais.
C'était complètement chez Exprime.
Même j'étais pas née.
Ben voilà.
C'est ça.
Et c'est un texte qui est remarquable, je trouve, où on avait vraiment toute la qualité littéraire de Clémentine Beauvais, mais dans un condensé beaucoup plus radical. C'est-à-dire qu'après, avec Les Petites Reines, il y a eu un peu de douceur, un peu d'humour
est
arrivé.
Oui, de légèreté.
Parce que là, c'est quand même pas léger. Hein.
Enfin, moi, léger, mais ça me...
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cynisme. Je parlais qu'il y a... Enfin, je trouve que dans ces personnages... Enfin, moi, quand je l'ai lu, c'est il y a quelque temps maintenant, mais je me souviens de pas m'accrocher à m'identifier ou en tout cas à aimer vraiment un personnage, en fait. Je suis resté un peu. J'ai adoré.
Enfin, je les ai pas spécialement aimés, mais ça m'a pas gêné.
Voilà, mais moi non plus. Hein.
Maintenant, si, j'aimais... Non, même pas Henri IV, j'aimais pas.
Mais c'est pour ça que je parle de cynisme, en fait. C'est parce que du coup, il n'y en a aucun qui m'a plu, mais j'ai aimé le livre.
Ouais, donc, c'est fort.
C'est très, très fort.
C'est fort.
Voilà. Donc, relisez, lisez toujours Clémentine Baudet. De toute façon, c'est toujours un plaisir. Allez, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Il me reste la bande dessinée, comme d'habitude, à présenter. Pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, j'ai choisi une BD que j'aime beaucoup, tirée d'un roman que j'aime encore plus. En tout cas, le titre de cette BD, de ce roman, c'est Sombre Citrouille. Le roman avait été écrit par Malika Ferdjouk et là, c'est Nicolas Pitz qui l'a adapté en bande dessinée. C'est chez Rue de Sèvres, évidemment. Et c'est un plaisir de retrouver cette histoire qui se passe un 31 octobre, où Malika Ferdjouk va raconter un vraiment à la mode du roman policier dans un lieu clos, l'histoire de la famille Coudrier, voilà, avec tout un tas de personnages qui vont venir et repartent en fait à la mode un peu d'un film de Chabrol ou à la mode d'un roman d'Agatha Christie. Et chaque personnage en fait amène sa pièce dans l'édifice. Il y a évidemment un meurtre puisqu'on est dans un roman policier. Sauf que beaucoup de personnes pourraient être les coupables et on va avancer comme ça dans l'histoire petit à petit. C'est extrêmement bien fait. Malika Ferdjouk l'avait extrêmement bien fait dans son roman et je trouve que c'est vraiment très bien fait aussi dans la bande dessinée. Le dessin de Nicolas Pitz est somptueux, vraiment très très beau et reprend avec talent la force du texte de Ferdjouk. En tout cas, c'est un vrai beau coup de cœur. Alors attention, c'est plutôt pour les ados, hein, si vous allez chercher des conseils. Sombre Citrouille, vous le conseillez pas aux plus jeunes parce que ça fait quand même un peu c'est un peu noir, donc à partir de 13-14 ans, Sombre Citrouille de Malika Ferdjouk et Nicolas Pitz chez Rue de Sèvres. Et voilà, nous avons terminé cette émission, c'est la dernière de l'année et 2019, donc nous retrouvons en 2020, donc on vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, faites-vous plaisir dans toutes les librairies et les bibliothèques de France.
Et
de Navarre aussi, je sais même pas où c'est la
Navarre.
Si, c'est
Henri IV, voilà. C'est vrai.
On va se quitter comme d'habitude en musique, on souhaite une belle fin d'année. On retrouve Lady Do et Monsieur Papa avec le titre Les Gros Mots. À bientôt Véro.
Au revoir Monsieur Simon.
J'ai des gros mots plein la bouche, des mots moches, des mots louches, ça fait mouche quand je les crache, les mots cloches, les mots vaches. J'ai des gros mots plein la bouche, les mots tâches, les mots touches, ça fait quand je lis les mots, les mots. Viennent les gros mots, les mots doux sont tout petits petits. Moi j'aime les gros mots et les petits 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 petits. Tic toc, ça me rend toc toc. Tous ces mots, ça me rend marteau. Maudit maudit, c'est interdit. Alors pourquoi toi tu les dis? Bombards et fariboles, calembredaine et coxigrue. C'est dans la cour d'école que je ramasse ces mots saugrenus. D'où viennent les gros mots? Les mots doux sont tout petits petits. Moi j'aime les gros mots et les petits 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 aussi. Il faut que je cesse ce chaos, oh cacao. Ces mots crus, crus sont incongrus. Promis, je ne les dirai plus. Dans la rue, je me remplis les poches de mots cracra, de mots croches. L'argot, c'est rigolo. Allez les gars, des gros mots à gogo. Tu pues des j'moutis, j'moutis. Ça me rend marteau.